Bonsoir à toutes et à tous. Du grain à moudre, c'est aussi tout l'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Séparation des pouvoirs, indépendance de la justice, défense de la liberté d'expression, ces valeurs héritées du libéralisme politique et qui visent à contrôler le pouvoir et à assurer l'égalité devant la loi sont indispensables à la démocratie. Ou plutôt, étaient, car depuis quelque temps, l'expression « démocratie illibérale » a surgi dans le débat public européen. Le dirigeant hongrois Viktor Orban est le premier à revendiquer l'expression qu'il porte comme un étendard de la contre-révolution en Europe, pour reprendre les termes de son appel de septembre 2016 au forum de Krynica en Pologne. Les dirigeants du PiS, Jarosław Kaczyński en tête, lui ont d'ailleurs très vite emboîté le pas. Dernière manifestation de cette contre-révolution, la réforme très controversée de la justice qui est entrée en vigueur aujourd'hui et contre laquelle la Cour suprême polonaise fait de la résistance. L'Union européenne semble démunie et même embarrassée face à cette remise en cause évidente de ses valeurs. Petit à petit, deux légitimités démocratiques s'opposent et la légitimation par les urnes prend le dessus sur la légitimation par le droit. Il est donc nécessaire de revenir aux sources et de se demander, la démocratie peut-elle vraiment être illibérale ? C'est la question du grain à moudre d'été à écouter tout de suite sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. Et pour y répondre, trois invités ce soir autour de la table. Jacques Krupnik, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, ancien conseiller du président tchèque Václav Havel dans les années 90. Vous aviez publié il y a un an dans la revue Esprit un article sur la démocratie illibérale en Europe centrale et ça vous qualifie donc parfaitement pour venir nous expliquer de quoi il retourne. En face de vous, Myriam Benelot-Carrabo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris-Nanterre et vous avez publié de nombreux articles et ouvrages sur la citoyenneté européenne, le droit communautaire, et vous nous éclairerez aussi sur ce lien finalement entre état de droit et démocratie qui est au cœur de cette notion, de cette question sur la démocratie illibérale. Et enfin, le dernier invité est philosophe, il s'agit de Pierre-Henri Tavoyau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de philosophie politique à la Sorbonne et président du Collège de philosophie, auteur dernièrement de Mieux en mieux et de pire en pire, chez Odile Jacob en 2017, vous nous retirez si là on est dans le cas de mieux en mieux ou du pire en pire.
Comme toujours les deux.
Comme toujours un petit peu des deux. En même temps, dirait un certain Emmanuel Macron. Alors Jacques Krupnik, peut-être faut-il commencer par un exercice de définition. C'est vrai qu'on entend parler de démocratie illibérale maintenant depuis un certain temps. C'était presque rentré dans le discours politique habituel. Voilà, pour commenter ce qui se passe notamment dans ces démocraties d'Europe de l'Est, ces pays du groupe de Visegrad que sont la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie, il me semble, pour compléter. On pourrait y ajouter bien d'autres, mais restons là-dessus. D'où vient cette expression de démocratie illibérale ? Qu'est-ce qu'elle dit exactement ?
C'est un terme employé dans la science politique. Il y a eu un livre qui a eu un certain retentissement il y a une vingtaine d'années de Farid Zakaria qui s'appelait tout simplement Illiberal Democracy, donc sur la démocratie non libérale, et dont la thèse principale était oui, après 89, on a eu partout la prolifération de régimes démocratiques ou dits démocratiques. Tout le monde faisait des élections, les dictatures étaient en perte de vitesse. Tout le monde se revendiquait de la démocratie, mais disait-il, c'est pas pour autant que nous avons une démocratie libérale, c'est pas pour autant que nous avons l'état de droit, la séparation des pouvoirs, etc. Et donc, il dit, ce qui s'est construit en Occident pendant deux siècles, on veut le faire en instantané, une démocratie instantanée post-89. Et l'idée, c'était, oui, en Occident, on a commencé par les droits civiques, les droits politiques ensuite, au 19e siècle, la représentation politique, et puis au 20e siècle, certains ont voulu prolonger avec des droits sociaux. Et maintenant, on voit toute la prolifération des droits. D'ailleurs, c'est une des critiques du libéralisme maintenant, c'est la prolifération des droits. Ce qui est nouveau, c'est que un politique, c'est-à-dire un homme politique, le premier ministre hongrois, s'est emparé d'un terme employé dans la science politique. C'est plutôt rare pour dire oui, on m'accuse ou on me critique en disant que ma démocratie n'est pas suffisamment libérale, etc. Mais il y a d'autres conceptions de la démocratie, et moi je défends un État illibéral. Et ça veut dire tout simplement en français non libéral. C'est la traduction. On l'emploie maintenant en français aussi illibéral, mais illibéral, ça veut dire non libéral. Et disait-il, oui, il y a d'autres conceptions de la démocratie. Et regardez, il y a des États qui pratiquent des élections qui sont économiquement plus efficaces. Et vos critiques sont irrecevables parce que moi j'ai une autre conception de la démocratie qui est basée sur la souveraineté du peuple. Et la souveraineté du peuple, disons, prime sur les contraintes constitutionnelles, juridiques que vous invoquez.
C'est donc une démocratie résumée au processus électoral en quelque sorte et qui peut se permettre de restreindre les libertés civiques et de remettre en cause la séparation des pouvoirs, Pierre-Henri Tavoyeux. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'on peut toujours dire qu'on est en démocratie dans ce cas-là?
Alors, je crois que pour bien comprendre le concept et même son origine, il faut remonter encore en amont. Et c'est ce que fait Farid Zakaria dans son livre. Mais il y a un moment qui est absolument clé et une référence qui est absolument unanime chez tous les penseurs de l'illibéralisme. Et encore une fois, Orban est un théoricien. C'est pas simplement un acteur politique. C'est quelqu'un qui a pensé. Je rappelle que Orban a été en 98 élu sur un programme libéral. Il a été libéral pendant 4 ans. Il a subi une cinglante défaite en 2002. Il a été dans l'opposition pendant assez longtemps, 16 ans, je crois. Et il est revenu en disant, écoutez, j'ai testé, j'ai été libéral, je vois que ça marche pas, donc maintenant je suis illibéral. Et d'ailleurs, c'est un point important, c'est que l'illibéralisme n'est pas conçu par ces théoriciens comme une étape vers une démocratie libérale, parce qu'on pourrait très bien dire, effectivement, nous avons connu, nous autres démocrates libéraux, dans notre histoire, des moments illibéraux. Prenons le Second Empire, forcément une démocratie, c'est clair, mais le Second Empire est un moment qui, à certains égards, est très libéral sur le plan économique, mais assez peu sur le plan, par exemple, de l'espace public. Il y a une méfiance. Hein. L'argument de Napoléon III, c'était de dire les médias, enfin les journaux à l'époque, sont des traîtres au peuple. Et du coup, il faut lutter contre les médias parce qu'ils nous éloignent de la souveraineté populaire. Donc c'est le même argument. Simplement, c'était conçu à l'époque comme une étape vers un idéal qui restait la démocratie libérale. Or, très clairement, et le discours d'Orban, que j'ai sous les yeux d'ailleurs, est intéressant, il dit non, c'est pas une étape, c'est une fin en soi. 26 février 2014, il vient de gagner les élections. Jusqu'à présent, nous connaissions 3 formes d'organisation étatique. L'État-nation, l'État libéral, l'État-providence. Mais la question est, qu'est-ce qui va venir ensuite? La réponse hongroise, c'est que l'État, l'ère d'un État fondé sur la valeur travail doit leur succéder. Le nouvel État que nous construisons en Hongrie n'est pas un État libéral, c'est un État non libéral. Et juste après, il fait référence à une expérience très singulière sur laquelle on pourra revenir, c'est l'expérience de Singapour. Et la clé, le fondateur, le penseur qui est de référence, c'est Lee Kuan Yew, le fondateur de Singapour, qui, en un temps extrêmement restreint, a fait passer cette petite cité-État du tiers-monde, comme il le dit, au premier monde. Et c'est ça qui constitue la clé de voûte de la référence au modèle illibéral.
Avant d'en venir à Lee Kuan Yew, terminons ce tour de table avec vous, Myriam Benlolo-Carabo, puisque on l'a compris, parmi les valeurs qu'on pensait inséparables de la démocratie et auxquelles s'attaquent ces démocraties dites illibérales, il y a l'état de droit, la justice. On l'a vu aujourd'hui avec cet exemple en Pologne d'une réforme de la justice qui vise en quelque sorte à mettre au pas la Cour suprême polonaise en instaurant un âge de départ à la retraite qui fait partir un tiers de cette Cour suprême. On voit qu'aujourd'hui elle fait de la résistance et que notamment la présidente de la Cour suprême a dit qu'elle retournerait travailler parce que constitutionnellement elle a le droit, enfin elle a même le devoir de continuer à travailler. Mais je voulais vous entendre peut-être avec ce regard de juriste qui est le vôtre sur cette possibilité d'avoir une démocratie séparée des libertés publiques, séparée de l'état de droit, ou en tout cas qui s'attaque à ces corps intermédiaires et à ce contre-pouvoir qu'est la justice.
Oui, alors c'est une conception en effet très particulière et je voudrais d'abord revenir sur deux éléments de la discussion qui me paraissent très intéressants d'ores et déjà. C'est déjà dans la définition même de la démocratie libérale, il y a quand même une césure qu'on avait assez peu vue jusque-là entre deux facettes du libéralisme. Le libéralisme politique et le libéralisme économique. Et Viktor Orban illustre très bien une sorte de décalage. Il assume un libéralisme économique en refusant absolument tous les éléments traditionnels du libéralisme politique. Et là, il y a, à mon avis, quelque chose qui, en droit, nous interroge beaucoup. Je voudrais aussi revenir sur un deuxième élément, c'est que le cadre européen et cette contestation de la démocratie, elle est très profonde et elle a quelque part été accentuée par l'intégration de la Hongrie dans le cadre européen, dans le contexte européen. Elle est en même temps canalisée et accentuée, ce qui peut paraître assez contradictoire. Mais la manière dont Viktor Orban se positionne aujourd'hui, et c'est un élément que je voudrais ajouter au débat, il y a une volonté très identitaire de revendiquer la démocratie hongroise, cette idée que la souveraineté appartient au peuple et exclusivement au peuple, et que tout élément qui peut contrer la souveraineté du peuple, qu'il s'agisse des contre-pouvoirs traditionnels ou des pouvoirs supranationaux, doit être combattu.
Oui, c'est d'ailleurs une phrase de Jarosław Kaczyński. Donc, en Pologne, il dit l'ennemi, c'est l'impossibilisme légal, c'est-à-dire que la volonté du peuple à laquelle s'opposerait la justice. C'est une idée d'ailleurs qui est répandue dans d'autres lieux en Europe. Jacques Rupnik. Et donc, on a, vous l'avez dit tout à l'heure, une volonté d'incarner le peuple et une façon d'opposer la légitimité du vote, la légitimité des urnes, à ce qui était la légitimation par le droit, en quelque sorte, de la démocratie.
Oui, justement, ils mettent le doigt sur là où ça fait mal, c'est-à-dire l'Europe progresse par le marché d'un côté et par le droit de l'autre, c'est les états de droit. Finalement, on a des normes partagées. Et vous nous dites, en gros, qu'au nom du consensus qui s'est construit dans la période de transition post-89, il y avait un consensus des élites. Les gouvernements, en gros, en Europe centrale, changeaient, mais en gros, pratiquer la même politique puisque l'objectif était de rentrer dans l'Union européenne. Donc il fallait faire des réformes économiques, il fallait faire construire des institutions politiques et il fallait construire un état de droit. Et ils disent, bon, ce consensus-là, ça c'était le consensus libéral des élites. Les résultats économiques, nous ne souhaitons pas en faire l'alpha et l'oméga de la question. La vraie question, c'est que devient le peuple, la volonté populaire, que devient la politique? Vous avez éclipsé la politique au nom de l'économie et du droit. Et donc ça, c'est une critique. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, à la fois, ça pose la question de la relation du libéralisme économique et du libéralisme politique, ça a été mentionné. En France, on a tendance à les confondre. On n'aime pas le libéralisme en général. Donc, libéralisme, c'est surtout le libéralisme économique. On découvre, à travers ce qui se passe en Europe centrale, que le libéralisme politique mérite d'être défendu. Et puis, deuxièmement, ça montre que le problème se situe à l'intérieur de la démocratie. C'est-à-dire que si on pouvait simplement dire, nous, ici, nous sommes les vrais démocrates libéraux, et en face, il y a des gens qui sont des autoritaires, des dictateurs, que ça. Non, le problème, la tension, disons, il y a une vraie tension dans l'idée démocratique entre la souveraineté et l'état de droit, et c'est un vieux débat. On a un philosophe ici, mais dans la philosophie politique, vous avez, voilà, des gens qui concevaient la souveraineté du peuple, la Révolution française, etc. Et vous aviez des gens comme Benjamin Constant qui disent la démocratie, c'est d'abord garantir la jouissance des libertés. C'est à ça que sert l'état de droit, la jouissance des libertés individuelles. La participation politique, hein, c'était sa thèse, de la démocratie chez les anciens et les modernes, eh bien, la démocratie, c'est la jouissance des libertés individuelles. La participation politique, ça, c'est votre choix si vous voulez y participer. Hein, en gros, la politique, c'est fait pour des gens qui s'ennuient chez eux. La principale raison d'être d'un État de droit, c'est de garantir ses libertés individuelles, l'épanouissement individuel. Et donc, vous avez Isaac Berlin qui distingue la liberté positive, la liberté négative. Voilà, la liberté négative, je veux être protégé des ingérences des autres et d'un État tout-puissant, et la liberté positive, c'est celle de participer. Et en gros, ce que dit Kaczyński, Orban et quelques autres, au nom de la deuxième version participative de la démocratie, la souveraineté qui prime sur tout le reste. Voilà. Et donc, mais j'insiste là-dessus, c'est une tension au sein de la démocratie.
Pierre-Henri Tavoyau.
Il est vraiment très très important de ne pas caricaturer le modèle illibéral. Parce que spontanément, on en a une lecture faussée et morale. En disant, voilà, grosso modo, c'est une dictature. Or, il ne s'agit pas d'une dictature. Il faut vraiment établir la différence, la distinction, elle est capitale. Il ne s'agit pas d'une dictature parce que le droit ne disparaît pas du tout. Il y a de l'état de droit. Orban, dans un de ses entretiens récents au Monde, disait, voilà, j'ai pris un bulldozer parce qu'il fallait faire des choses, on est dans une situation d'urgence, mais ce bulldozer, il respectait le code de la route. Il respecte le code de la route. Et alors certes, j'ai été tenté de modifier à certains moments le code de la route, il le dit, mais ce bulldozer respecte le code de la route. Donc c'est pas une dénaturation complète du droit, c'est le fait, et c'est ça l'idée essentielle. La démocratie, c'est la maîtrise par le peuple de son destin. Or, un certain nombre d'États considèrent que ce destin leur échappe complètement. Il leur échappe économiquement, il leur échappe avec la logique des frontières et les questions des migrants. Et donc, c'est un déni de démocratie. Donc, ne négligeons pas cet argument très fort et constant. Les démocrates illibéraux se considèrent comme les vrais démocrates. Les vrais démocrates. Et nous sommes, à leurs yeux, des démocrates en déclin, c'est-à-dire qui avons oublié la politique, c'est-à-dire la maîtrise par le peuple de leur destin, au profit, effectivement, de l'économie et du droit. Voilà.
Myriam Benlolo-Carabo, il a respecté le code de la route, Viktor Orban ?
Eh ben non. En fait, je ne suis pas sûre, je ne serai pas en tout cas aussi affirmative. Là où je vous suis complètement, c'est que oui, le droit est formellement utilisé et on suit les procédures pour aboutir aux résultats que l'on a aujourd'hui en Hongrie et en Pologne. N'empêche que la réforme qui aujourd'hui entre en vigueur en Pologne...
Oui, je parlais de la Hongrie, c'était un peu différent.
C'est exact, mais là, pour prendre l'exemple de la Pologne, incontestablement, la loi qui entre en vigueur aujourd'hui est inconstitutionnelle. En Hongrie, je suis d'accord, les choses sont un petit peu différentes, mais il y a quand même une instrumentalisation du droit qui me paraît...
C'est difficile de trouver des exemples concrets, c'est pour ça que j'ai essayé de creuser moi aussi. Soyons clairs, je ne vais pas défendre la démocratie libérale.
Non, il ne s'agit pas de défendre,
j'ai
j'entends vraiment, très bien votre
j'essaie
argument.
J'ai vraiment de creuser et de voir en détail les moments où effectivement ils sortaient du code de la route. Et j'avoue que je n'en ai pas trouvé beaucoup. Mais
Jacques Rupnik en a peut-être trouvé.
Il est sorti du code de la route tout de suite en adoptant de nouvelles dispositions pour la nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Et ça, il l'a fait très tôt. Il a été élu donc en 2010, dès 2011, il introduisait. Et alors à ce moment-là, vous modifiez, vous envoyez un certain nombre de juges à la retraite, vous nommez de nouveaux juges à travers une procédure que vous politisez. Et l'ancien président de la Cour de la Cour constitutionnelle hongroise avait dit à ce moment-là, l'état de droit a cessé d'exister en Hongrie. Donc, oui, ça, c'était l'atteinte la plus forte. Et d'ailleurs, en Pologne, ils ont fait exactement la même chose. Kaczynski est arrivé au pouvoir à la fin 2015. Première mesure, dès décembre 2015, modifier le mode de nomination des juges à la Cour constitutionnelle, ce qui vous permet ensuite, bien entendu, lorsque le litige arrive à ce niveau-là, d'avoir les arbitrages qui vous arrangent.
Et c'est pour ça que nous avons une professeure de droit autour de la table. Myriam Benlolo-Carabo, vous vouliez la parole.
Oui, je rappelle qu'au moment où toutes ces réformes sont passées, qu'il s'agisse de la Hongrie ou de la Pologne, ces États étant pleinement intégrés à l'Union européenne, ils étaient aussi engagés et là, sur le fondement de leur constitution nationale, au respect et au plein et entier respect du droit de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, le code de la route est, on pourra en parler, mais le code de la route est incontestablement violé.
Eh bien, avançons un petit peu justement en introduisant cette dimension européenne véritablement, puisque ça a été déjà un petit peu abordé par Pierre-Henri Tavoyot. Il y a ce contexte européen évidemment qui est très très important pour comprendre l'évolution et l'apparition de ces démocraties illibérales. Et là, on rentre dans une question qui est peut-être beaucoup plus politique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut répondre, mais quand il y a une critique qui est faite de la Hongrie, de la Pologne, etc., on parle plus volontiers de valeurs européennes. Il y a eu ce discours, par exemple, d'Angela Merkel lors du dernier Conseil européen qui dit attention à nos valeurs européennes. C'est quelque chose qui est central. Et donc, on sort d'une logique purement juridique pour rentrer dans une question peut-être plus politique, plus civilisationnelle, même presque, de la question des valeurs. Qu'est-ce qu'il veut répondre peut-être Pierre-Henri Tavoyot?
Oui, là-dessus aussi, j'essaye, en approchant cet objet un peu bizarre, vraiment de lire les textes, c'est-à-dire de lire les discours d'Orban qui sont parfois détestables. Et puis parfois absolument presque géniaux dans la clarté et dans la concision. Et c'est vrai que dans un de ses discours, il distingue très bien deux Europes. Il dit en Europe, nous avons des valeurs communes, tous. Démocratie, état de droit, économie de marché. Voilà, ça c'est le base. Mais sur cette base-là, il y a deux Europes qui apparaissent. L'Europe de l'Est, fruit de la révolution de 89, qui a été une révolution... Orban reprend paradoxalement l'expression de Habermas, qui consiste à dire que ça a été une révolution de rattrapage. C'était une « Nachholende Revolution » dit Habermas. C'était une révolution qui rattrapait, mais qui n'avait pas d'horizon. C'est un argument qu'on entend souvent, c'est-à-dire une révolution où effectivement, on veut simplement se remettre à niveau. Donc c'est pas très très exaltant. Et à un moment donné, cette révolution sans horizon a été dans l'impasse et a patiné. Donc il dit voilà, cette Europe-là, c'est l'Europe du sursaut. On va retrouver la nature profonde de la démocratie. La démocratie, c'est la maîtrise par le peuple de son destin. Puis en face à ça, il y a une autre Europe qui est l'Europe du déclin. L'Europe donne une sorte de suicide, alors dont le trait principal pour Orban, c'est l'immigration, c'est-à-dire une Europe qui n'a plus de frontières, qui est vouée au multiculturalisme, qui est vouée à la non-maîtrise, et qui est vouée, si je puis dire aussi, à une sorte de non-décision et à ce qui est sa pathologie principale, les abus de contre-pouvoir. Voilà, c'est plus. Là, et donc, quand les Européens de l'Est regardent l'Europe de l'Ouest, ils disent mais comment se fait-il que y a la grève SNCF, les étudiants manifestent, mais ils comprennent pas. Voilà. Et c'est cette opposition entre deux Europes qui, sur fond, je le rappelle quand même, d'une unité, qui est vraiment le clivage qui apparaît. Et l'alliance nouvelle.
Jacques Rupnik, en septembre 2016, Jarosław Kaczyński et Viktor Orban se retrouvaient en Pologne lors d'un forum à Krynica, désolé pour mon accent polonais, et ils en appelaient ensemble à une contre-révolution en Europe, une contre-révolution pour changer l'Union européenne elle-même, ses structures, ses processus de prise de décision, et pour retransférer les pouvoirs vers les parlements nationaux. On retrouve là cette idée d'incarner la volonté populaire.
Oui, il y avait deux choses dans leur rencontre à ce moment-là. C'était au lendemain du Brexit. Et la leçon qu'ils tiraient du Brexit, c'était de dire « Nous voulons rapatrier les pouvoirs vers les gouvernements nationaux. La Commission européenne se mêle de tout, excès de régulation. » Bon, ça, argument bien connu. L'autre argument, c'était justement un appel à cette contre-révolution culturelle, disait-il. L'Europe a besoin d'une... Bon, et c'était sur les valeurs, justement. L'Europe est prisonnière, donc je restitue un peu leur argument, d'une doxa libérale. Qui aujourd'hui va de l'avortement au mariage gay, etc., et qui finit jusqu'au multiculturalisme. Et ça, c'est la dissolution des valeurs traditionnelles. On est dans le discours sur les valeurs. Et nous sommes les défenseurs des valeurs traditionnelles. Nous sommes les vrais conservateurs. Au passage, ils disent la CDU, c'est plus un parti conservateur. Ils sont pour le mariage gay. Donc Angela Merkel n'est plus un parti conservateur. Ils ont adopté
le dire la CSU aujourd'hui également.
Voilà. Et donc nous sommes les défenseurs, les valeurs familiales, la famille, la nation, l'Église, etc., etc. Donc on est. Et d'ailleurs, ça c'est l'habileté d'Orban, parce que sur la question de l'État de droit, on peut l'attaquer très vite. C'est la question du libéralisme politique. Vous violez les principes de l'Union européenne, séparation des pouvoirs, constitutionnel, etc. Et donc là, il est sur un terrain, disons, où l'Union européenne peut l'attaquer, et d'ailleurs elle l'attaque en ce moment, il y a des procédures vis-à-vis de la Pologne, etc. Il y a, par contre, il déplace le curseur vers la question du libéralisme sociétal, et donc là, on est dans le débat sur les valeurs, on est dans les guerres culturelles, grand sujet, pas seulement centre-européen, européen et outre-Atlantique aussi. Et donc, il déplace vers ces questions-là, sachant que à travers ce qui se passe et qu'on peut observer dans le reste de l'Europe, ils ont là un écho à une audience, disons, qui dépasse largement le groupe de Visegrad, l'Europe centrale.
Oui, on pourrait y ajouter évidemment l'Autriche, l'Italie, Absolument. La Bavière et peut-être également d'autres pays d'Union européenne. Mais avant de reparler un petit peu des valeurs, on comprend bien qu'il y a ces deux dimensions finalement dans la démocratie illibérale et qui rendent la lecture difficile et qui rendent passionnante une émission du Grand Hamout de 45 minutes sur le sujet. On voit bien qu'il faut alterner le regard sur ces valeurs et le regard sur le droit. Et justement, justement, puisqu'on parle de l'Union européenne, Myriam Benlolo-Carabo, comment se fait-il, puisque Jacques Rupnik vient de le dire, il y a la possibilité d'attaquer la Hongrie, la Pologne par l'Union européenne sur ces critères qui ne sont plus respectés. Il y a un certain nombre de critères depuis 1993, il me semble, à Copenhague, on a dit, pour intégrer l'Union européenne, voilà les critères qu'il faut respecter. Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on est dedans, on peut se passer de respecter ces critères indispensables pour rentrer dans le club très fermé de l'Union européenne ?
Alors, il est vrai qu'on est dans une situation qui paraît un peu paradoxale, où on sait que pour rentrer dans le club, il faut des années et des années de négociations et de mise en conformité avec les standards européens. Et ça prend très longtemps, avec une procédure de suivi très stricte menée essentiellement par la Commission européenne. Et puis une fois qu'on est dedans, le paradoxe commence à apparaître. Bon ben, on est là, on est dans le club et on viole à la fois les principes juridiques et les valeurs. Et c'est là que je compléterai peut-être ce que vous avez dit, Monsieur Rupnik. Il y a bien sûr les principes de l'état de droit où là, l'Union européenne peut attaquer frontalement. Sur les valeurs dites sociétales, l'Union européenne peut aussi, en fait, attaquer d'après ce que lui disent ses traités, puisque les valeurs sur lesquelles est fondée aujourd'hui l'Union européenne sont aussi les valeurs de pluralisme, de tolérance, de non-discrimination, de respect des minorités. Et quand la Pologne, aujourd'hui, va plaider devant la Cour de justice qu'elle veut une société ethniquement homogène et que c'est pour cela qu'elle ne veut pas le plan de relocalisation proposé par la Commission européenne et décidé par le Conseil, elle plaide là un argument qui, sur le plan des valeurs européennes, est tout simplement irrecevable. Mais sur le strict plan des procédures, il en existe, en fait, parce que les traités européens sont aujourd'hui aussi pétris de valeurs européennes. À l'article 2 du TUE, notamment, le traité sur l'Union européenne, on proclame bien les valeurs européennes, et on a en place des procédures. On a des procédures que je classerai en deux types, en fait, pour être un peu pédagogique. Premier type, la procédure dite politique, et deuxième type, la procédure plutôt juridictionnelle. La Pologne, aujourd'hui, fait l'objet des deux types de procédures. Hier, la Commission européenne vient de lancer la troisième procédure visant à faire reconnaître le manquement de la Pologne à certaines obligations du droit de l'Union européenne au sujet de sa réforme de la Cour suprême. Mais c'est la troisième, en fait. On en a déjà une autre qui est en cours devant la Cour de justice sur la précédente réforme des tribunaux. Et puis, on a la procédure politique qui a été enclenchée en décembre 2017 pour la première fois, qui viserait in fine à sanctionner un État, mais au terme de procédures assez compliquées.
Donc on le voit, l'Europe n'est pas tout à fait démunie face à cette montée des démocraties illibérales. La démocratie peut-elle vraiment être illibérale ? C'est le sujet ce soir du Grain à moudre. On en parle avec Jacques Rupnik, qui est directeur de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po, avec Myriam Benlolo-Carabo, qu'on vient d'entendre, qui est professeur de droit à l'Université Paris-Nanterre, et avec Pierre-Henri Tavoyot, qui est professeur de philosophie politique à la Sorbonne.
France Culture, du Grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Alors il y a dans ce que vient de dire Myriam Benlolo-Carabo la dimension juridique et la dimension politique, on l'a bien compris. Et justement, est-ce qu'il n'y aurait pas ces derniers temps une certaine déception de l'Union européenne qui a cru la possibilité par l'intégration européenne d'acculturer en quelque sorte, on a parlé tout à l'heure de l'après, du rattrapage après la révolution de 89, mais je m'adresse à vous là Jacques Rupnik, l'Union européenne a-t-elle cru à un moment qu'elle pourrait acculturer ces pays de l'Est à la démocratie telle qu'elle l'entendait? Elle se rend compte aujourd'hui qu'elle n'y est pas arrivée.
Oui, il y a eu, du côté de l'Union européenne, après 89, tous les regards se sont tournés vers cet objectif-là, en tout cas dans les pays qui sortaient du communisme. Et donc, il y avait ce levier formidable, hein, on appelait ça le soft power européen, la puissance il y a toute une littérature sur la puissance transformatrice de l'Union européenne. Donc, vous voulez rentrer dans l'Union européenne, voilà les conditions. Et donc, on vous impose pas. Mais si vous voulez vraiment rentrer, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, vous devez changer vos institutions, vous devez adopter un système juridique compatible avec l'Union européenne, une administration publique indépendante, les conditions de fonctionnement de l'économie de marché, etc. Et donc, ça, cette conditionnalité européenne a très bien fonctionné. Ça a été un formidable succès. Quand j'entends maintenant dire « Ah, mais l'élargissement était peut-être une erreur » ou c'était... Pas du tout. L'élargissement a été un succès formidable. Ça a permis, ça a favorisé, c'est pas la seule condition, mais ça a favorisé une transformation démocratique des pays d'Europe centrale. Ce qui est préoccupant et intéressant, c'est la régression de la démocratie en Europe centrale, mais pas seulement. Moi, je verrais le phénomène de l'Europe centrale pas comme un phénomène isolé, mais comme quelque chose qu'il faut voir dans un contexte européen plus large. Regardez, vous avez mentionné l'Autriche, vous avez mentionné l'Italie. Regardez ce qui se passe, y compris, on l'a oublié parce que Emmanuel Macron a été élu, mais regardez quand même les élections françaises et celles qui vont venir au Parlement européen. Regardez les élections américaines. Et ça a été très important pour l'Europe centrale. Parce que là, ils ont vu que la référence, c'était plus l'Union européenne et sa conditionnalité, voilà, pour entrer dans le club. Non. Si la Grande-Bretagne, avec le Brexit, qui s'est fait largement sur des questions migratoires, si Donald Trump se fait élire avec, alors lui, une posture très antilibérale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors là, l'illibéralisme, démocratie illibérale devient un euphémisme. Orban avait salué sa victoire, comme le président tchèque d'ailleurs, comme d'autres en Europe centrale. Trump a été triomphalement reçu il y a exactement un an à Varsovie. Il a fait dans son discours un éloge formidable de la démocratie polonaise, rempart de la civilisation occidentale, etc., etc. Et donc, il y a une légitimation de cette régression démocratique par ce qui se passe au cœur même des démocraties occidentales. Le cas américain est peut-être le plus emblématique.
Avec une question subsidiaire, Pierre-Henri Tavoyot, pour l'Europe, on se demande à ce moment-là, même si Jacques Rupnik nous dit non, il n'y a pas eu d'erreur dans cet élargissement européen, mais on a largement l'impression que l'Union européenne se fracasse aujourd'hui sur cette différence, et on se demande, est-ce que l'Europe est responsable, finalement, de cette remise en cause de ses valeurs en son propre sein, ou est-ce qu'elle en est simplement la victime?
Je pense qu'on est là dans une situation vraiment de ce qu'on appelle le tragique en histoire. C'est-à-dire que remettons-nous en 89. En 89, il faut rappeler aussi que pour les Français, la grande hantise, c'est ce qu'on appelait le Drang nach Ost, c'est-à-dire la dérive de l'Allemagne vers l'Est avec la constitution, la reconstitution de la hantise absolue sur le plan géopolitique de la France, la Mitteleuropa, de l'Europe du milieu, c'est-à-dire ce bloc entre la Russie et la France qui est une menace. Et donc, dans la stratégie française, l'idée de ouvrir l'Europe, c'est l'idée de intégrer l'Allemagne et les pays de l'Est à, disons, la démocratie libérale. Donc, d'une certaine façon, c'était une nécessité historique. Mais ça a eu un coût phénoménal, c'était la mort de l'Europe politique. La mort de l'Europe politique, c'est-à-dire qu'on se contentait effectivement dans cette perspective d'une Europe marché, d'une Europe du droit. Mais c'était la fin de l'Europe politique, c'est-à-dire du projet d'une Europe puissance, qui était déjà assez mal embringuée, il faut bien le reconnaître, d'une Europe puissance, et qui s'affirmait comme telle, c'est-à-dire en disant, nous ne sommes pas simples. Alors, nous sommes sous le bouclier américain, ce qui est déjà un problème, nous n'avons pas de défense autonome, nous sommes une puissance économique ouverte, toutes les frontières sont parfaitement ouvertes, donc cette Europe puissance est morte à ce moment-là. Et donc, j'allais dire, on peut avoir des regrets ou pas, on a une situation tragique, et à partir de là, effectivement, le projet politique de l'Europe, qui est la source principale de la montée en puissance de l'Europe et de la démocratie libérale, c'est que le reproche principal qu'on fait d'ailleurs même en France aussi, c'est que cette Europe n'est pas gouvernée. Cette Europe n'est pas gouvernée. Il y a une gestion, il y a une bureaucratie, il y a des lois de l'économie, mais elle n'est pas gouvernée, notamment quand il y a des enjeux essentiels, l'énergie, l'environnement, les migrants. Voilà, il n'y a pas de gouvernement.
Myriam Mellolo-Carabo.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que l'élargissement, à mon avis, a été une réussite sur le plan juridique et institutionnel pour ces pays-là comme pour l'Union européenne, mais il a aussi incontestablement signé la fin d'une certaine idée de l'Europe et d'une certaine unité européenne, parce qu'on savait très bien qu'en élargissement à l'Est, aussi rapidement aussi massivement, on allait vers la fin d'une certaine forme d'union politique. Mais je voudrais ajouter un élément, l'Union européenne a une deuxième part de responsabilité, c'est que incontestablement, et c'est peu de le dire, il y a un problème démocratique dans l'Union européenne. Je ne dirais pas seulement que l'Europe n'est pas gouvernée. Elle est gouvernée d'une façon inaudible est très difficilement compréhensible.
Mais la gouvernance, mais c'est pas du gouvernement.
Voilà, il y a incontestablement une forme de gouvernance européenne très particulière et qui, du coup, ne relève pas des canons classiques de la démocratie et ce qui pose problème, parce qu'elle est mal expliquée. Mais il y a eu aussi, de la part de l'Union européenne, une certaine confiscation de la démocratie. Et je pense aux crises grecques, je pense à la crise de l'euro, où, dans ce moment-là de crise, eh bien, il y a eu, par des autorités comme la Banque Centrale Européenne, des prises de décisions éminemment politiques, mais sur lesquelles il y a eu un contrôle démocratique pour le moins lâche, voire inexistant. Et ça, ça pose un vrai problème. Et l'Union européenne a incontestablement une part de responsabilité.
Ce qui donne presque raison à ces démocraties libérales, Jacques Rupnik. Si on en revient par exemple à cette question des migrations qui ont occupé le Conseil européen en fin de semaine dernière, on a entendu ce que disait Myriam Loloccarabo sur sur cette question de la demande d'un peuple homogène ethniquement par la Pologne, qui évidemment est inacceptable. En revanche, on peut se demander si dans une telle Europe dirigée par une gouvernance mais non pas gouvernée, un pays peut accepter qu'on lui dicte la composition de sa population et qu'on lui dise, ben voilà, vous allez accepter d'ouvrir votre pays à une transformation de votre population.
Oui, c'est l'argument qu'ils ont invoqué. Chaque État, y compris les États membres de l'Union européenne, doit avoir le droit de décider qui entre sur son territoire. Si vous nous dites que nous n'avons plus... nous parlons des citoyens extérieurs à l'Union européenne, bien entendu, pas de la circulation interne.
Ouais, parce qu'on a compris que la pureté ethnique était en jeu.
Oui, mais personne n'a parlé de pureté ethnique à ce moment-là. Je doute d'ailleurs que la Pologne passe une loi comme ça. Elle est devenue homogène.
Elle l'a plaidé devant la Cour. Hein. Elle a osé le plaider, ce qui est est extrêmement problématique.
Il faudra voir la terminologie qui a été utilisée, mais c'est un état de fait. Ces états sont des états homogènes. Et donc ça, c'est une des clés pour comprendre, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas connu depuis un demi-siècle, comme l'Europe occidentale, l'arrivée de populations des anciennes colonies, d'autres continents, et qui ont fait le multiculturalisme de fait de l'Union européenne. Aujourd'hui, on essaye de théoriser ou de trouver disons un accommodement juridique pour ça. Mais c'était simplement une situation de fait en Occident. Leur situation était différente. Derrière le rideau de fer, vous ne pouviez pas sortir, mais vous ne pouviez pas rentrer. Donc il n'y avait pas de phénomène migratoire de ce type-là. Et donc aujourd'hui, pour des raisons historiques que je n'ai pas le temps de développer ici, ils défendent l'idée d'une nation non pas homogène, ça je ne l'ai pas entendu dans leur discours ni dans leur... mais de fait, de préserver la nation, la culture, le mode de vie, etc. Et ils pointent du doigt d'ailleurs les pays d'Europe occidentale, leurs difficultés avec l'intégration des populations immigrées, la question du terrorisme, etc. J'ai pas besoin d'en rajouter. Ils disent, voilà, vous essayez de nous imposer ce modèle-là et nous ne l'acceptons pas. Moi, je dirais une autre chose. Oui, il y a la question de la définition de ce qu'est l'Europe ou de ce qu'est la nation. Mais dans le cas précis... là où ils se sont braqués, c'était sur la question des quotas. Je ne défends pas l'idée des quotas comme solution magique à la question migratoire. Mais j'allais dire, sur le plan politique, les quotas représentaient l'idée d'une solidarité européenne. Voilà, prise en compte. Nous sommes tous face à ce problème et nous en prenons chacun une partie de cette responsabilité. Ça ne résout pas le problème. Et je crois que d'ailleurs, ils auraient fait ce geste symbolique. Qu'est-ce qu'on demandait aux Tchèques 2000. Bon, c'était pas grand-chose. Et en un sens, ils auraient désamorcé une partie des critiques qui leur sont adressées.
Mais ce qui montre qu'ils ne sont pas prêts à passer, à faire ce saut symbolique, en quelque sorte, Pierre-Henri Tavoyer. Et c'est vrai que dans le discours tel qu'on l'entend de cette démocratie illibérale, on a un peu l'impression d'entendre qu'ils sont le dernier rempart de la civilisation chrétienne contre ces invasions barbares. J'exagère à peine. Et il y avait un livre très, très intéressant du politologue bulgare récemment, Ivan Krastev, qui parlait du destin de l'Europe. C'était publié aux éditions Premier Parallèle. Et qui me pointe bien cette peur de disparaître, cette mémoire de la chute des empires, notamment l'empire des Habsbourg, et qui expliquerait cette différence de notion vis-à-vis une conception de la démocratie.
Je vais vous proposer un regard un peu particulier sur ce phénomène des démocraties libérales, mais à certains égards, on pourrait considérer que elles sont dans la position, souvent elles le disent elles-mêmes, Orban le dit, dans la position de Gaulle face aux Américains en 58 ou juste après la guerre. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement, la France va disparaître et qu'il faut lutter et remonter. Et donc, si on regarde cette logique, Orban le dit très, très, très simplement. Il le dit, voilà, nous représentons 0,2% de la population, 0,02% de la population mondiale, c'est-à-dire quasiment rien, une langue qui n'est parlée que par nous. Et donc, il faut survivre. Voilà. Et donc, il y a une logique, effectivement, de l'encerclement, une logique de défense d'une culture, de petite puissance. Et c'est le point essentiel qui distingue l'illibéralisme du libéralisme, c'est l'idée effectivement de la neutralité. En démocratie libérale, il y a une neutralité par rapport aux conceptions du bien. C'est-à-dire qu'on considère, ça s'appelle la laïcité en fait, au fond, c'est la laïcité. Dans les démocraties illibérales, il y a une référence explicite à des valeurs substantielles, identifiées, défense d'un modèle familial, défense d'un modèle culturel. Et effectivement, je reviens à la référence de Lee Kuan Yew à Singapour, c'était la référence aux valeurs confucéennes, alors que dans toute la révolution chinoise, les valeurs confucéennes étaient réputées être la principale responsable du sous-développement de la Chine. Il renverse et aujourd'hui, il inspire Deng Xiaoping par la suite, la Chine réinvestit ses valeurs confucéennes, des valeurs substantielles. Donc c'est le point de divergence ultime et c'est là où effectivement, laïcité ou pas laïcité, le point de désaccord se met.
Bon alors, Myriam Benlolo-Carabon n'aura pas réussi véritablement à répondre à cette question, ou peut-on répondre de façon tranchée à la question qu'on posait ce soir? Peut-on vraiment parler de démocratie illibérale? Est-ce qu'il faut inventer un autre terme? Il y a des propositions, le philosophe Michael Fossel parle de néolibéraux autoritaires, j'ai pu lire que certains politistes anglo-saxons proposent autoritarisme concurrentiel, c'est-à-dire on accepte la concurrence démocratique, mais on est quand même dans de l'autoritarisme. Il y a démocrature, évidemment, qui a émergé également. Pour terminer, pour conclure sur cette question, est-ce que véritablement on a là un autre modèle de démocratie ou est-ce qu'on a un modèle non démocratique?
Oh, moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire, mais je
m'aime
beaucoup.
On a encore le temps.
J'aimerais beaucoup entendre mes deux collègues autour de cette table qui auront sûrement beaucoup de choses à nous dire. Moi, j'aurais tendance vraiment à dire qu'on est là en dehors de la démocratie.
Pierre-Henri Tavrio.
Écoutez, dans un autre contexte, Erdogan dit « La démocratie n'est pas une fin, c'est un moyen. La démocratie est comme un tramway. Une fois arrivé au terminus, on en descend. » Voilà, je pense que c'est le point de clivage. Est-ce que c'est une fin ou un moyen? Pour les libéraux, c'est une fin, la démocratie. Pour les illibéraux, c'est un moyen et qu'on peut potentiellement, à terme, quitter.
Mais un moyen pour arriver où alors, en l'occurrence?
Pour arriver à la prospérité, c'est le point clé, c'est-à-dire la prospérité et la culture. C'est à la culture, en tout cas la défense ou la sauvegarde de la culture, c'est les deux objectifs. Ce pourquoi en fait, il me semble qu'il y a une contradiction dans l'illibéralisme. Ce pourquoi, je dis le fond de ma pensée, c'est quelque chose qui ne va pas forcément tenir très longtemps. Pourquoi? Parce que cette contradiction, c'est que en se référant à des valeurs culturelles, au fond, ils sont très utilitariste et très consumériste. Et donc, il y a une sorte de déséquilibre et de contradiction qui, à terme, ne rend pas le modèle très plausible.
Jacques Rupnik, un dernier mot sur cette idée.
Les pays d'Europe centrale ne sont ni des dictatures à la Poutine ou Erdogan, ni des démocraties libérales telles qu'on les concevait en Europe occidentale. Ils sont dans l'entre-deux. Cette dérive autoritaire est très inquiétante et pose un vrai défi à l'Europe. Moi, je dirais leur appartenance à l'Europe, elle est menaçante pour l'Union européenne. Elle est perçue comme telle, et on le voit comme ça devient difficile de prendre des décisions. Mais d'un autre côté, l'Europe aussi fournit un cadre, une limite à ne pas dépasser dans cette dérive. Je dirais, et des populations de ces pays le vivent ainsi. Parce qu'il ne faut pas voir ces pays comme des gouvernements, ils sont élus et ils font ce qu'ils veulent. Non, il y a en Pologne, il y a une société civile. On le voit par exemple, la société civile polonaise se mobilise.
A manifesté ce matin en effet.
Absolument, sur cette loi qui menace l'indépendance de la Cour de justice, que la Cour suprême polonaise. Donc il y a une société civile et il y a l'Europe. Et ça, c'est les deux contraintes qui limitent la dérive autoritaire des pays Europe centrale considérés comme illibéraux.
Il aurait fallu continuer encore au moins une heure, voire beaucoup plus pour épuiser ce sujet. Je vous remercie en tout cas de vous être prêtés tous les trois à l'exercice. Jacques Rupnik, Myriam Benlolo-Carabo et Pierre-Henri Tavoyau autour de ce grain à moudre d'été. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les références sur notre page du site du grain à moudre d'été sur franceculture.fr. L'émission a été préparée par Leïla Saïdi, Camille Ferré, Céline Leclerc, Marine Lerouge et Imen Mélaz. À la réalisation ce soir, c'était Anne Depelchin. avec l'aide de Nina Villenfin et à la prise de son, Florent Bujon.